On reprend notre journée de colloque sur sexe et démocratie et nous allons partir sur un bloc que j'ai intitulé « Histoire culturelle, mémoire et réflexion ». Et nous avons la chance de compter parmi nous aujourd'hui avec deux spécialistes espagnols. Ça me tient vraiment à cœur. Donc, on va commencer par Juan Manuel Ibéas. Je cherche. Qui est maître de conférences HDR à l'Université de Pays Basque et traducteur. Il a publié avec Messier Crozier et Chorderet l'ouvre de savoir et civisme, les sociétés savantes et l'action patriotique en Europe au XVIIIe siècle, à Zlatkin, en 2017, et avec Lydia Vasquez, Lumière amère, en 2008. Parmi ses collaborations et articles récents, on peut citer « Les mauvais goûts, est-il espagnol, est-il français ?» Je laisse là. Dans l'invention du mauvais goût à l'âge classique, dirigé par Christophe Abramovici, en 2013. Entre amitié et monstruosité, la réception hispanique des liaisons dangereuses. Je laisse là aussi. Et il traduit entre autres à Jules Michelet, Pierre Macorlan et Desnos et Honoré de Balzac. Donc avec toutes ces informations, je te cède la parole, Juan. Merci.
Merci beaucoup Laura Catala. Je tiens à te remercier sincèrement. Hein, c'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous. Et bon, je vais changer un peu, je vais tourner un peu par rapport à ce qu'on a fait ce matin. Donc, je vais me tourner vers un exemple, un roman espagnol du début du 19e siècle, et dans lequel on met en scène une scène de non-consentement. Et on va voir le processus d'esthétisation donc de ces phénomènes de non-consentement. Alors, Cornelia Borgia est un, ou la victime de l'Inquisition, est un roman épistolaire écrit en espagnol au tournant du siècle des Lumières et publié à Paris en 1801. Donc, c'est, le roman paraît anonymement, mais les spécialistes ont déterminé que c'est Luis Gutiérrez, un Sévillan, né en 1771, et qui était un ancien religieux trinitaire. Il est moine, il quitte les ordres. Et c'est un exclaustré qui va être un grand écrivain, un journaliste, un aventurier même, et qui mourra par Garroteville. Le Garroteville, c'est les lacets étrangleurs, qui était une pratique habituelle en Espagne jusqu'à l'époque de Franco. Et donc, il va être tué ainsi. Pourquoi? Parce qu'il a collaboré, il était francisé, un afrancesado, donc il était partisan des Français lors de la guerre de l'Espagne, pour la libération de l'Espagne. Bon, et donc il va être poursuivi, il va avoir une persécution et politique et religieuse. Donc lui-même, il va être victime de l'Inquisition et il va transmettre tout cela dans son œuvre. Donc c'est vers 1799 qu'il va écrire donc ce roman épistolaire anticlérical. Et donc c'est là il met en scène donc sa propre expérience. Et alors, il va donner sa voix à Cornelia Borgia, et dans son texte, le texte, il va être très mal reçu en Espagne, bien évidemment, et il va être interdit presque de sa parution. Mais par contre, il va être très lu, et il va y avoir énormément de traductions. On va trouver des traductions, on va le trouver en français, en anglais, en portugais, en allemand, donc vraiment, il y a toute l'Europe qui va être fascinée par les faits racontés dans ces romans. En plus, on prétendait que c'était des faits réels, donc c'est pour ça que ça va provoquer vraiment une grande émotion à l'époque. Donc je vais vous raconter un peu de quoi il parle ces romans. Et alors il va raconter l'histoire de destin cruel et injuste de cette Cornelia Borgia, qui est la fille du gouverneur de Valence. Alors, elle va être enfermée par l'archevêque de Séville. Et pourquoi ? Parce que lui, il est follement amoureux d'elle. Et alors, pour la ramollir, dira-t-il, pour la convaincre, pour la séduire, il va l'enfermer. Donc, c'est elle-même qui raconte à son père dans une lettre comment les faits se sont passés. Je vais vous raconter, moi, je vais lire les citations, par contre. Ce que je vais vous rapporter vous paraîtra sans doute incroyable au premier aspect. Mais ce n'est malheureusement que trop vrai. On a employé la violence pour m'enlever de votre maison. Oui, la violence. Mais quel est le ravisseur ? Horrible attentat. Ces personnages qui feignaient de vous être si attachés. Cet homme dont la réputation semble si bien établie dans tout le royaume, dont la sagesse paraît inséparable de son saint ministère. Cet orateur qui si souvent a recommandé dans ses prédications la vertu aux filles, la fidélité aux femmes, la chasteté aux veuves. Là, ce matin, on disait qu'il fallait emprisonner les immigrants. Là, on voit que c'est même les gens des biens, même les gens d'église commettaient des atrocités. Donc, l'archevêque de Séville, enfin, oui, lui-même, après m'avoir tendu 1000 pièges à droite et secrets sous le manteau de la piété et de la religion, après s'avoir vainement tenté tous les moyens de séduction, a osé m'arracher à votre tendresse de la manière la plus infâme. Donc, vraiment, il met en scène, et qu'elle a été donc la façon de les faire, quels sont ces désirs impurs de cet archevêque. L'archevêque m'attendait dans son palais avec la plus grande impatience. Quelle joie, quel transport ne témoigna-t-il pas à mon arrivée? Combien j'eus à souffrir dans ce moment fatal? Promesses, prières, caresses, protestations, jurements, violences, rien ne fut oublié. Mais ma fermeté sut triompher de tout. Non, je vous le répète, ne me croyez pas facile et coupable. Suspendez votre jugement et écoutez la noirceur de cet homme, sa grossièreté, sa barbarie, ses manières déshonnêtes, ses yeux brûlants d'un feu impur, son visage calme en apparence, mais pâle et irascible en réalité, sa contenance en descente libertine, tout en lui eut complètement éteint dans la dernière des prostituées jusqu'à la plus légère étincelle des désirs de l'amour. Vraiment, il y a toute une mise en scène de ce processus des tentatives de séduction, donc c'est sur lequel on va insister par la suite. La jeune fille, alors, elle poursuit dans sa lettre, décrivant l'agression, et elle raconte tous les traumatismes psychologiques dont elle va être la victime. Et lui dit « Quant à moi, j'aborde de tout mon âme cet homme exécrable, non content, ô mon père, de m'avoir si cruellement outragé, de m'avoir abreuvé d'humiliation de tous les genres. Il a porté son odieuse et injuste vengeance jusqu'à me priver de la lumière et me faire enfermer dans le plus sombre cachot du Saint-Office. Pour ramollir, dit-il, mon cœur de roche. » Pour ramollir. L'idée, c'est de ramollir la volonté des femmes. « Mais je le jure, ce cœur saura souffrir, rester inflexible et nourrir une haine implacable contre ces tyrans, digne à peine d'être rangé dans la classe des bêtes féroces. Quelle plaie profonde je ferai à votre cœur sensible si je vous rapportais en détail les vexations inouïes auxquelles j'ai été en butte, les peines qui ont dévoré mon âme depuis que j'ai été arraché de vos bras paternels et la terreur inexprimable qui assiège mon esprit dans ma honteuse et injuste prison. » Donc, après cette lettre déchirante, n'est-ce pas, des faits que l'on pouvait imaginer qui est commis par les gens du Saint-Office, et on va voir que le père de la jeune fille et son amoureux, Bartolomé Vargas, vont tout essayer pour la libérer, mais sans succès. Alors, on va voir que finalement, Cornelia, elle montre une résilience, une force remarquable, et elle parvient à se défendre à un moment, au moment ultime, au moment de la violation. Elle va réussir à se défendre en tuant son violeur. Il faut se défendre, et là vraiment on le met en scène, n'est-ce pas? C'est un peu tout ça. Et bien, surtout, je vais insister sur le fait de comment on est en train de préparer les imaginaires, comment doit agir une femme face à ces genres de gestes, n'est-ce pas? Mais c'est l'archevêque entrant, comme des coutumes dans le cachot, vers les 11h du matin, pour voir Bororquia. Là, c'est une servante qui nous le raconte, pardon. La jeune dame lui opposa une vigoureuse résistance en luttant longtemps corps à corps avec lui, jusqu'à ce que se voyant près de succomber, elle s'est servie du couteau qu'on lui avait laissé pour ses repas, et après s'en avoir frappé le prélat à plusieurs reprises, elle le blessa mortellement en lui enfonçant son arme dans le cœur. Ces monstres, blessés à mort, firent retentir le cachot des cris les plus perçants. Donc, elle réussit à le tuer. Et encore, la scène, elle va être encore plus perverse. Pourquoi ? Parce que dans les derniers moments, l'archevêque, qui est rongé par les remords, il s'adresse donc à Cornelia. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui demander pardon. Il veut absolument, après toute cette tentative, il veut le pardon de la victime. Et le prélat, pour le remords, est prêt de paraître devant le souverain juge, déclare la vérité, et aidé de l'inquisiteur, parce qu'il y a les autres inquisiteurs qui viennent, il s'élève avec beaucoup de peine, et se traînant au pied de Borrorquia, il lui dit d'une voix faible, tremblante et à genoux, « L'éternité qui m'attend, le respect dû à votre vertu, les bras d'un dieu vengeur levés pour châtier mon horrible attentat, tout, hélas, m'inspire la crainte et l'épouvante. C'est moi, fille infortunée, qui vous ai arraché de la maison paternelle et qui ai causé la mort de votre père. C'est moi qui vous ai fait gémir injustement dans un lugubre cachot. Je suis un monstre qui ne mérite pas, pardonne-moi, respectable orpheline, daignez ne pas me priver de cette consolation dans l'horrible situation. Moi, malheureux, Borrorquia, baigné de larmes et suffoqué par la douleur, ne le laisse point achever et, le prenant par la main, le relève respectueusement et lui accorde généreusement le pardon qu'il sollicitait. Mais presque au même instant, l'archevêque tombe et expire. Donc vraiment, on voit toute la scène, il y a même le moment de pardon. Et cette mort, que l'on pourrait voir comme un champ d'espoir, n'est-ce pas ? Finalement, la victime, elle parvient à se libérer, mais ça n'en sera pas ainsi, puisque les inquisiteurs vont la condamner et vont la faire brûler. Pourquoi ? Parce qu'elle est coupable d'avoir attaqué cet homme. Et donc, il justifie cette sentence cruelle en l'accusant d'être une assassine, d'avoir assassiné. Et surtout, l'idée, c'est de protéger, bien évidemment, cette autorité patriarcale, n'est-ce pas, qui gouverne le Saint-Office. Alors, dans son roman, Gutiérrez se serait inspiré d'un personnage historique, Maria Borquez, donc une martyre protestante réelle, qui aurait été brûlée. Mais les faits n'avaient rien à voir réellement avec ce qu'il rapporte dans son roman. Et le baron d'Holbach, dans sa cruauté religieuse, il parle justement de cette Maria Borquez. Et il dira « Une femme de qualité nommée Borrorquia, épouse d'Irera en Espagne, quoique grosse de 6 mois, fut arrêtée par l'Inquisition uniquement parce que sa sœur, qui avait été pareillement arrêtée et qui fut ainsi brûlée, avait déclaré dans la torture qu'elle l'avait entretenue de sa façon de penser. La dame Borrorquia accoucha dans sa prison. Au bout de 15 jours, elle fut resserrée très étroitement et traitée avec la même dureté que les autres prisonniers. » Et bon, finalement, elle va être tuée pour combler la mesure de la perversité des inquisiteurs. Il se trouva par la suite que cette dame était parfaitement innocente de ce dont on l'accusait, et les inquisiteurs qui l'avaient cruellement assassinée la déclarèrent eux-mêmes telle. Donc voilà, elle était une victime innocente, comme dans notre roman. Il y a une autre source pour ces faits, qui est un voyage de Figaro en Espagne. C'est un roman vraiment très... une sorte de récit des voyages, parce que l'auteur, le marquis de Langle, n'a jamais mis un pied dans la péninsule, mais il invente à partir de ce qu'il a entendu. Et c'est vraiment à partir de cette histoire de Maria Borquez, il va inventer une histoire semblable et qui se rapproche beaucoup plus de celle qu'on retrouve chez Luis Gutiérrez, l'auteur espagnol. Il dira « Mais l'Inquisition n'immola jamais des victimes plus intéressantes que Cornelia Borrorquia, fille du marquis de Borrorquia, gouverneur de Valence. » Vous voyez que c'est Borrorquia, tandis que le roman sera Borrorquia avec R, là c'est avec H, gouverneur de Valence. « Rien n'égalait la beauté de Borrorquia. L'archevêque de Séville la vit, en devint amoureux, la fit enlever, voulut assouvir ses désirs. Borrorquia ne voulut pas, il la livra de rage à l'Inquisition et elle fut condamnée et brûlée comme hérétique. Elle invoqua Dieu jusqu'au dernier moment, elle criait du milieu des flammes qu'elle le craignait, qu'elle l'aimait et qu'elle le voyait, qu'il lui tendait les bras. » Non, vraiment, c'est une scène comme ça. Alors, le roman, par rapport à cela, le roman, la particularité du roman de Gutiérrez, c'est qu'il s'articule autour du refus de consentement de la protagoniste. Le fait le plus important, celui auquel, qui va être, autour duquel va pivoter le reste de l'histoire, c'est ces moments de non-consentement. C'est l'homme qui essaie de forcer la femme et elle qui résiste. Donc, il y a comment faire pour ramollir donc cette volonté féminine. Alors, ce texte émerge comme un appel puissant à la conscience collective, invitant les lecteurs et les lectrices à réfléchir sur les conséquences dévastatrices des abus institutionnalisés sur les femmes. Donc, c'était un fait. L'Église était toujours une main sur les femmes. On disait, Jules Michelet, il dit que les prêtres, c'est à travers les femmes qu'ils exercent leur pouvoir. Et là, ici, c'est un peu cette même peur. Et cependant, le texte présente une inquiétante étrangeté. Pourquoi ? Parce qu'il dépeint non seulement les abus du pouvoir et l'injustice flagrante de l'Inquisition, mais aussi les courages et la détermination d'une jeune femme face à l'oppression. Et alors, il y a les institutions implacables et cette jeune femme qui tient face à ces pouvoirs des hommes, des mâles. Cornelia Bororca émerge comme un symbole poignant de résistance contre les injustices et les violences infligées aux femmes en cette période. Donc voilà, le harcèlement n'est pas présenté comme une forme de séduction comme on pouvait trouver dans les romans du XVIIIe siècle. On parlait tout à l'heure des liaisons dangereuses, etc. Là, c'est presque comme un moyen possible. Ici, bien au contraire, l'auteur expose de manière poignante les abus perpétrés par le pouvoir mâle et souligne l'impact dévastateur de ces pratiques sur les femmes de l'époque. Ici, donc, le harcèlement n'est pas une anecdote, mais c'est vraiment le noyau de l'histoire. Et bien que les textes soient inspirés des écrits anticléricaux, il appartient clairement à anticléricaux, je veux dire, des Lumières, il appartient vraiment à son époque, c'est-à-dire le tournant des Lumières. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'il il appartient clairement à un genre un peu particulier qui apparaît en ces moments, qui est le roman gothique, le roman noir. Annie Lebrun en parle dans les Châteaux de la Subversion, n'est-ce pas ? Alors c'est un genre qui va avoir un énorme succès dans ce tournant des Lumières, et il y a un peu les mêmes codes qui reviennent à plusieurs reprises. Alors on a une jeune fille innocente et pure qui se trouve jetée dans un horrible cachot par les hasards de la vie, et c'est le prétexte pour un voyage au pays des horreurs. C'est vraiment épouvantable. Mais bien entendu, c'est des horreurs féminins. C'est sur les femmes que l'on fait, dans la victimisation des femmes, que l'on va c'est récréé. Et évidemment, les hommes, ils souffrent, c'est père qui est là, l'amoureux aussi, mais les vrais martyrs vont être les femmes. Donc nous assistons à une esthétisation du non-consentement féminin, mais aussi des attaques systématiques de la part de l'individu mâle, de la société hétéropatriarcale et de l'Église misogyne, n'est-ce pas, contre les femmes, et qui cherche à déplier la volonté des femmes. Donc c'est un scénario un peu particulier pour cette époque que l'on pourrait imaginer marquée par la philosophie des Lumières, mais nous réalisons bientôt que ces genres littéraires suscitent la peur et l'horreur avec un but assez particulier. Il met en scène la violence sociale et religieuse envers les femmes pour, en quelque sorte, prévenir les hommes les pères, les maris, de garder leurs femmes bien en sécurité. Et pour les femmes, ce genre de littérature, c'est un peu comme un épouvantail. C'est une façon de les dire, attention à vous, attention à ce que vous faites, parce que si vous vous exposez, vous vous laissez voir, il y a un risque réel de la part des institutions. Donc ce genre, en examinant les conséquences de la transgression et en utilisant des figures de pouvoir comme des symboles, explore donc la dynamique des genres, et le gothique féminin en particulier met en avant des protagonistes féminines. Souvent c'est des héroïnes fortes, mais toujours un peu naïves pour le le charme de, du lecteur homme, un idéal un peu fantasmé, comme dans le cas de Cornelia. Et en contraste, les hommes, ils sont souvent présentés comme étant dévorés par leur passion, une passion irréfrénable, n'est-ce pas, que l'on ne peut pas retenir. Et donc, toutes les actions, on va nous décrire toutes leurs actions immorales qui, à l'époque, sont jugées comme obscènes, mais qui ont un certain attrait pour le lecteur, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'à la fin, on voit que le harceleur va même recevoir le pardon de la victime. Donc, vraiment, tout est fait comme pour attirer, pour aiguiser ce charme. Donc ces récits rationalisent la violence structurelle du système et défendent les institutions établies en quelque sorte. Donc c'est un double jeu de frayeur et de morale qui rend le genre gothique particulièrement pertinent dans son contexte historique. Alors quel est ce contexte historique? Comme nous le savons, cette fin du XVIIIe siècle, marquée par la terreur, marquée par la période napoléonienne, c'est une époque dans laquelle vraiment les attaques contre les femmes ont été les plus dures. Juste après la Révolution, les femmes vont perdre le droit à hériter, les droits au divorce, tous ces droits qu'elles avaient conquis avec grand effort, ils vont le perdre et ils se trouveront juste au début du XIXe siècle dans une situation qui est encore plus dure que ne l'était dans les siècles précédents. Donc vraiment, ce n'est pas surprenant qu'à cette époque, on voit apparaître ces nouveaux genres si violents, si justement contre les femmes. Merci beaucoup, je finis ici. J'ai mis quelques images là de la même époque, c'est des Goya, donc il joue également avec l'esthétisation de cette violence contre les femmes.
Merci beaucoup. Je sais pas si ça fonctionne. Ouais. Okay. C'est très important de voir un peu le. Enfin, on parle de. T'inquiète. Parce qu'on parle de redéfinir et d'analyser aujourd'hui le consentement, mais c'est vrai qu'on peut pas oublier les traces du passé, autant au niveau histoire, au niveau littérature. C'est très très important. Donc merci beaucoup. On va passer à Lydia Vasquez. Nous avons parmi nous la traductrice Dani Arnaud en espagnol. Ouais, allez-y. Donc Lydia Vasquez, professeure des universités de Pays Basque, académicienne européenne dans la section sciences humaines et théâtre, spécialiste en littérature libertine du XVIIIe siècle, chercheuse avec participatif de genre et avec perspective des genres, pardon, et animaliste, ainsi que comparatiste d'art et littérature. Traductrice primée d'auteurs et autrices du XVIIe siècle à l'extrême contemporain. Notamment traductrice d'Annie Arnaud en espagnol, elle a écrit de nombreux ouvrages et articles sur ces sujets.
Donc, merci beaucoup. Merci Laura, merci à la Fondation, merci de m'avoir invitée. Merci de laisser cette place, cette séance à la littérature, à l'imaginaire et aux mentalités. Je trouve que c'était très important que Juan revienne en arrière un peu au XVIIIe siècle pour savoir où en était le consentement et surtout l'imaginaire de ce consentement. Et voilà, donc là, après à la table ronde, je serai autre chose qu'eux, mais là, je parle comme traductrice d'Onde Dani Arnaud, que je connais bien personnellement. Et littérairement, bien entendu. Donc, évidemment, il me semblait incontournable de parler de mémoire de fille. Ce matin, ce livre a été évoqué. Je dis, mon Dieu, on va en parler. Qu'est-ce que j'aurai à dire après cet après-midi? Et bon, j'ai trouvé ma place. Je vais lire pour aller plus vite, voilà, pour rester dans les temps. Mon intention, donc, n'est pas ici de revenir sur les définitions de consentement sexuel, ce qui a déjà été fait par des bien plus grands spécialistes que moi, pas plus que de refaire le parcours historique d'un concept dont le sens et la réception ont tant changé, comme l'a sciemment démontré Geneviève Fraisse. Il a été exposé ici, ce matin, que cette évolution a élevé le consentement moderne et démocratique au rang d'élément fondamental de la liberté individuelle. Mais nous avons vu aussi ce matin à quel point la zone grise est présente dans de nombreux rapports sexuels, en particulier lorsqu'il s'agit d'échanges hétérosexuels, et surtout dans ces toutes premières fois, je cite Annie Arnaud, où l'homme propose et la femme dispose, un dicton qu'elle cite aussi dans Mémoire de fille. C'est justement de cela qu'il est question dans Mémoire de fille d'Annie Arnaud de 2016, En tant que traductrice en espagnol de la prix Nobel, je me suis vue confrontée à mesurer chacun de mes mots lors de la traduction de ce texte d'une précision et d'une puissance fascinantes, comme dit Léris. En fait, tous les textes d'Annie Ernaux exigent de moi, traductrice, cette précision, car c'est une écrivaine qui pèse ses mots, et parfois ils sont lourds de sens, de double sens, de triple sens. Elle pèse les mots quand elle écrit, mais aussi ces mots qu'elle décide de rejeter, de ne pas écrire, ou, comme ici justement, consentement et viol, le premier contesté dès les premières lignes, le second cité seulement pour nier sa pertinence. Le degré de complexité venait surtout du fait que l'autrice de ce qu'elle appelle une auto-sociobiographie s'y dédouble dans ce texte en « je » et « elle ». « Je » étant Annie Ernaux écrivant ce texte en 2014, c'est-à-dire à 74 ans, et « elle », la fille de 58, comme elle l'appelle elle-même, c'est-à-dire Annie Duchesne, c'est son nom de jeune fille, à 18 ans. Je connais le besoin de vérité d'Annie, avec qui j'ai pu échanger à maintes reprises depuis 10 ans déjà quand j'ai traduit mon premier livre d'elle, « La femme gelée »,« La mujer. Et ce besoin de vérité se traduit chez elle dans un effort titanesque pour se mettre à la place de son personnage, qui, nous le savons, est elle-même. Nous savons qu'en cela, elle est aidée par son journal intime qu'elle tient dès l'âge de 17 ans, sans interruption, c'est-à-dire peu avant l'événement qu'elle va raconter dans « Mémoire de fille ». C'est-à-dire son premier rapport sexuel avec un homme. Mémoire des filles est paru donc en 2016. C'est un de ses derniers ouvrages, avant Hôtel Casanova de 2020 et Le jeune homme en 2022. Nous savons que l'œuvre autobiographique d'Annie Ernaux ne suit pas linéairement son parcours vital et que le choix d'écrire un événement ou un autre l'ayant marqué pour différentes raisons correspond au besoin et ou à la possibilité, dans le sens où elle arrive enfin à prendre la parole, non pas la libérer, que l'autrice éprouve à un moment donné. Nous savons aussi ce que lui a coûté de se lâcher dans l'événement. L'événement, je parle du titre de son livre. Publié en 2000, écrit en 1998 sur son avortement clandestin en 1968. 30 ans d'écart entre cet événement et son écriture. Or, pour Mémoire de fille, le laps de temps entre ce premier rapport sexuel avec H et son écriture, 2014, est de 56 ans. C'est sans doute le livre qui lui a le plus coûté écrire, plus que le récit de son avortement clandestin où elle a failli mourir d'une septicémie. C'est elle-même qui nous en donne les raisons. J'ai voulu oublier cette fille, l'oublier vraiment, c'est-à-dire ne plus avoir envie d'écrire sur elle, ne plus penser que je dois écrire sur elle, son désir, sa folie, son idiotie, son orgueil, sa faim et son centauri. Je n'y suis jamais parvenue, donc elle a dû écrire sur elle. La boulimie et l'aménorrhée sont en effet les séquelles physiologiques immédiates de cet événement dont elle se souvient bien, car il est au fond de cette mémoire, comme elle l'appelle, grande et minutieuse, qui est le don prodigieux de la honte. Ce premier rapport sexuel avec un jeune homme, un rapport pourtant voulu, désiré, mais qui s'inscrit sous le signe de la violence et de l'incompréhension, la traumatise donc jusqu'au point de garder le silence pendant 56 ans. L'incipit de ce texte vaut d'être cité. Il y a des êtres qui sont submergés par la réalité des autres, leur façon de parler, de croiser les jambes, d'allumer une cigarette, englués dans la présence des autres. Un jour, plutôt une nuit, ils sont emportés par le désir et la volonté d'un seul autre. Ce qu'ils pensaient s'évanouit, ils se dissolvent. Ni soumission, ni consentement, seulement l'effarement du réel qui fait tout juste dire « qu'est-ce qui m'arrive ?» ou « c'est à moi que ça arrive ?» Sauf qu'il n'y a plus de moi dans cette circonstance, il n'y a plus que l'autre, le maître de la situation, des gestes du moment qui suit, qu'il est le seul à connaître. Cet incipit, en effet, comme souvent dans les livres d'Ernaux, est la clé de la lecture de l'histoire. Sauf que ces êtres neutres, qualifiés au masculin neutre, racontés dans un présent atemporel, ou mieux, de vérité générale, c'est elle, la fille de 58, et avec elle toutes les jeunes filles de sa génération, peut-être même de toutes les jeunes filles, encore et toujours. Et à elle d'assener, dès les premières lignes, un coup à ce consentement moderne et démocratique élevé au rang d'élément fondamental de la liberté individuelle. Car il n'est question ici ni de soumission ni de consentement, seulement de l'effarement du réel, c'est-à-dire de cet état entre l'effroi et la stupéfaction produit par un événement face auquel cet être est incapable de réagir. Or, cette vérité générale l'est, comme toujours chez Ernaux, non pas parce que juste, au contraire, mais parce que constatée. Dans ce sens, Mémoire de fille me semble, après La femme gelée ou L'événement, un des livres témoignages féminins et féministes les plus importants de notre époque. Et comme il existe toujours des femmes gelées et des avortements clandestins, il y a encore de nos jours des filles qui se rappellent avec honte de ce jour où, sans consentir ou sans consentir librement, ne purent, ne voulurent, car leur volonté alors n'est plus que la volonté de l'autre, réagir. Pour que son lecteur et sa lectrice, mais aussi Lani Ernaux de 2014, puissent comprendre comment arrive-t-on à cette zone grise, elle explique les circonstances qui l'ont fait possible, donc cet état de vulnérabilité dont on parlait ce matin. C'est la première fois, elle dit, c'est la première fois qu'elle quitte ses parents. Elle parle d'elle à la troisième personne. Elle n'est jamais sortie de son trou. C'est une enfant dorlotée. Elle a été couvée. Elle a été une seule fois au bal, mais surveillée par sa mère de près. Elle était assise en face pour qu'elle ne fasse de bêtises. Elle n'a jamais côtoyé de garçons, donc elle était soumise à une éducation non mixte. Elle ne connaît que depuis peu les baisers et les caresses, et ce, par-dessus les vêtements. Bien entendu, je cite toujours entre guillemets, elle n'a jamais vu ni touché un sexe d'homme. Puis, elle a 17 ans et n'a qu'un seul désir, partir d'Yvetot, échapper au regard de sa mère, de l'école, de la ville entière et faire ce qu'elle veut. Premier lieu mixte dans sa vie et de liberté totale, donc, cette colonie où elle va être la monitrice la plus jeune du groupe, elle va avoir ses 18 ans quand elle va être déjà monitrice, donc on en fait exception, la seule inexperte et où elle arrive avec un mélange de désir et de crainte. Le premier samedi, sa première sur pattes. Elle est dans une excitation extrême. Le premier homme qui l'a fait danser, H, le moniteur chef, de quelques ans plus âgé qu'elle. Elle est troublée, je la cite, parce qu'elle ne cesse de la fixer intensement tout en la faisant tourner. En dansant, il recule vers le mur en continuant de la fixer. La lumière s'éteint, en fait c'est lui qui éteint la lumière. Il la tire violemment contre son torse, écrase sa bouche contre la sienne. Il chuchote, on sort, elle dit oui. Elle dit oui, non pas à ce qui va venir, mais à l'amour, parce qu'elle rêve de le faire tel qu'elle l'a lu dans Les Misérables, dit-elle, à la page de la première nuit de Cosette et de Marius. Elle ne dit pas oui à ce qui s'ensuit. Devant le parc obscur, il la plaque contre le mur. Il se frotte contre elle. Elle sent son sexe contre son ventre à travers le jean. Il va trop vite. Elle n'est pas prête pour tant de rapidité, de fougue. Elle ne ressent rien. Elle est subjuguée par ce désir qu'il a d'elle, un désir d'homme sans retenue, sauvage. Elle ne demande pas où ils vont. Ils sont dans sa chambre à elle, dans le noir. Elle ne voit pas ce qu'il fait. À 7 minutes, elle croit toujours qu'ils vont continuer de s'embrasser et de se caresser au travers des vêtements sur le lit. Il dit « Déshabille-toi ». Depuis qu'il l'a invitée à danser, elle a fait tout ce qu'il lui a demandé. Elle se couche à côté de lui, sur le lit étroit, nue. Elle n'a pas le temps de s'habituer à sa nudité, merci. À sa nudité entière, c'est que ça tombe. Oui, ça, j'avais essayé, mais ça tombe. Elle n'a pas le temps de s'habituer à sa nudité entière, à son corps d'homme nu. Elle sent aussitôt l'énormité et la rigidité du membre qu'il pousse entre ses cuisses. Il force, elle a mal, elle dit qu'elle est vierge, elle crie. Il la houspille. « J'aimerais mieux que tu jouisses plutôt que de gueuler. » Elle voudrait être ailleurs, mais elle ne part pas. Elle a froid. Elle pourrait se lever, rallumer, lui dire de se rhabiller, de s'en aller. Ou elle, se rhabiller, le planter là et retourner à la surpatte. Elle aurait pu. Je sais que l'idée ne lui est même pas venue. La suite se déroule comme un film X où la partenaire de l'homme est à contretemps. Ne sait pas quoi faire parce qu'elle ne connaît pas la suite. Lui seul en est le maître. Il a toujours un temps d'avance. Il a fait glisser au bas de son ventre la bouche sur sa queue. Elle reçoit aussitôt la déflagration d'un flot gras de sperme qui l'éclabousse jusque dans les narines. Oui, Burke. Il n'y a pas plus de 5 minutes depuis qu'ils sont entrés dans la chambre. Je suis incapable de trouver dans ma mémoire un sentiment quelconque, encore moins une pensée. La fille sur le lit assiste à ce qui lui arrive et qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre une heure avant. C'est tout. Et quelques minutes plus tard, il continue la besogne, cette fois dans sa piole à lui. Elle a abdiqué toute volonté. Elle est entièrement dans la sienne. Je ne sais pas à quel moment elle, non pas se résigne, mais consent à perdre sa virginité. Veut la perdre. Elle collabore. Je ne me rappelle pas le nombre de fois où il a essayé de la pénétrer et qu'elle l'a sucé parce qu'il n'y arrivait pas. Il répète qu'il voudrait qu'elle jouisse. Elle ne peut pas. Il lui manie le sexe trop fort. Elle pourrait peut-être lui dire que s'il caressait le sexe avec sa bouche, ça irait mieux. Elle ne lui demande pas. C'est une chose honteuse à demander pour une fille. Elle ne fait que ce dont il a envie. Voici la zone grise racontée dans un ouvrage littéraire comme jamais auparavant. Voici expliquer ce que consentement veut dire dans ces circonstances. Subir la violence de l'autre qui s'érige en maître, qui ordonne, qui impose sa seule volonté, son seul désir. À trois reprises, Annie Duchesne, la fille de 58, a consenti, mais l'axiome de l'incipit la dément. À le suivre, mais pensant qu'il s'embrasserait, c'est tout. Il y a eu donc consentement verbal, elle dit oui. À coucher avec lui, consentement non verbal, elle aurait pu partir, mais l'idée ne lui est même pas venue. À perdre sa virginité, consentement non verbal, elle collabore. La stupéfaction face à l'inconnu, la gradation fulgurante des étapes de l'événement, 5 minutes, qui devient presque immédiatement un fait accompli. L'idée même que pour la première fois, elle couche avec un homme fait, sa mère et ses amis n'en reviendraient pas. Tout contribue à créer cette zone grise que la fille de 58 ne vit pas comme un viol, mais comme une loi, je la cite encore, une loi indiscutable, universelle, celle d'une sauvagerie masculine qu'un jour ou l'autre il lui aurait bien fallu subir. Que cette loi soit brutale et sale, c'est ainsi. D'ailleurs, et c'est là le point le plus polémique de ce récit autobiographique dans ce qu'il a de remise en question du rapport consentement-viol, y compris pour moi, sa traductrice en espagnol, le jet d'Annie Ernaux refuse, fidèle à ne pas fausser la réalité par une perspective ultérieure, de considérer cet acte brutal de H, le 13e travail d'Hercule, plaisante-t-elle, comme un viol, puisque la fille de 58, elle, ne l'a pas vécu comme telle. Elle écrit exactement. Je ne sais pas si elle reconnaît sa première nuit avec H dans la description dramatique que fait Simone de Beauvoir de la perte de la virginité. Si elle est d'accord avec la première pénétration est toujours un viol. Mon impossibilité encore aujourd'hui d'utiliser le mot viol au sujet de H signifie peut-être que non. Or, fin 2017, fait éruption dans le monde entier le mouvement MeToo, qui pour Ernaux a été, je la cite, comme une grande lumière, une déflagration. En 2020, Clémence Alézard et Mathilde Forger, lectrices de Mémoire des filles, rencontrent Annie Ernaux pour le troisième et avant-dernier épisode de leur documentaire radiophonique Violet.es, une histoire de domination au pluriel. Je vous le conseille, c'est en France Culture, on peut toujours les écouter, ces 4 émissions. Donc dans la troisième, c'est Annie Ernaux qui parle. Ici, pour la première fois, de manière explicite, Annie Ernaux prononce plusieurs fois le mot « viol » pour décrire cette première scène sexuelle. Mais sa déclaration se précise et se fait plus solennelle dans une formule particulièrement élaborée au terme d'un dialogue avec Mathilde Forger sur la scène qu'elle a écrite. Ce rapport au texte, plutôt qu'à l'expérience biographique, se traduit notamment par l'emploi du présent pour évoquer la scène et de tournure comme il y a décrit. Au terme de ce dialogue, Ernaux décide d'interpeller son expérience et son récit comme viol. Je crois qu'il y a eu sans doute une méconnaissance tout de même au départ, c'est-à-dire donc H a dû penser que oui, j'étais d'accord pour... Je dis exactement la transcription. En fait, je ne sais pas ce qu'il pensait parce que voilà, je reviens toujours à ça. Il me semble qu'au moment où je dis « je suis vierge », c'est trop tard. Il est dans la violence. Il est, voilà, c'est là effectivement qu'on peut parler du viol puisque ça ne l'arrête absolument pas. Voilà, c'est certain, c'est certain. Donc la femme qui l'interviewe, vous lui dites que vous êtes vierge et que là, à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Mais il y a, moi aussi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a quand même les cris de douleur. « Ah oui, » répond-elle, « c'est quand même pas, c'est pas rien. Oui, oui, il force et vous criez de douleur. Je crie. Et tout le monde sait très bien ce que c'est qu'un cri de douleur. Absolument. Ce que ça veut dire ça fait mal. Et quand même, si ça fait mal, ça fait partie d'un dialogue, enfin en tout cas vous... Je crie et il dit « j'aimerais mieux que tu jouisses plutôt que tu gueules ». Ça, c'est une phrase d'une violence inouïe. Dans votre bouche, quand vous prononcez ces mots, c'est maintenant je vois l'ampleur de la violence, l'inadmissible évidemment aussi, l'inadmissible, et je sens que vous avez raison. Et maintenant, j'ai raison de dire « viol », voilà. Puis finalement, il analyse l'impossibilité de rester sur la lecture historique avant de prendre définitivement parti. Oui, je n'employais pas le mot viol dans la mesure où je voulais rester fidèle à la perception qu'elle a eue, que j'ai eue cette nuit et qui n'a jamais été celle d'un viol. Alors la phrase de Simone de Beauvoir, « La première nuit, c'est toujours un viol », m'avait atterrée. Oui. J'ai fini. Maintenant, en réalité, je l'assume. Je l'assume ici, dans cette émission, précisément parce que je ne peux pas rester dans la perception de la fille de 58, parce que je suis une femme de 2020 et que je dois mettre bien un mot pour mes contemporains de 2020, et ce mot, c'est le mot viol. En somme, Annie Ernaux, comme moi, après les hésitations qui pouvaient être légitimes, tenant compte de l'évolution des mentalités, et justement grâce à ce changement en grande partie dû à MeToo, nous défendons enfin la révision nécessaire des faits historiques, notamment le consentement et le viol je continue parce que sinon j'explique, comme concept au-delà de leur mouvance, de leur évolution, qui ont des caractéristiques donc fixes. Ce que subissent les filles ou les garçons, je pense à Abdella Taïa, que j'ai traduit aussi, et qui a écrit aussi son viol et qui a été interviewé dans la même émission. Je vous conseille aussi le témoignage d'Abdella Taïa, qui consentent malgré eux, dans ces zones grises qui se font souiller avec une violence sans contexte. C'est un crime aujourd'hui comme au Moyen-Âge, ici comme aux Antipodes. Et ce consentement n'en sera pas un. On est en effet loin de la vision dichotomique oui, non, acceptation, refus, consentement, viol. Et ce n'est pas parce que la victime, la proie, n'en est pas consciente, ou parce qu'elle est amoureuse, parce qu'elle se sent coupable, parce qu'elle ressent de la honte d'avoir consenti, ou tout ensemble, que le viol n'en est pas un. En fait, Annie Duchesne, comme c'est explicité dans l'Incipit, n'a pas consenti. Elle était effarée, c'est tout. Et s'il n'y a pas de consentement ou de consentement libre et conscient, il y a viol. Et Mémoire de fille d'Annie Ernaux met au jour, donne à voir un viol ancré dans la mémoire d'une femme de 74 ans qui n'aura jamais pu oublier l'événement subi par la fille de 58. Je vous remercie.